il est 13h. Salut à tous, c'est Sweet Home Chicago qui démarre. Sweet Home Chicago numéro 1058 en ce samedi 27 avril 2019. Voilà, avec le disque du mois Cotton Bellies, l'album Missy, dont on vient d'entendre un nouvel extrait. Il y en a eu plusieurs dans la dernière émission. Celui-ci, c'était I Won't Lie. Et puis, il faut que je vous dise qu'on a quand même quelques invités au cours de cette première heure et deuxième heure. On a trois heures à passer ensemble. On est ensemble jusqu'à 16 heures, bien sûr. En troisième heure, ce seront vos dédicaces. Il y en a 6 ou 7. Et puis, en première heure, on aura au téléphone deux morceaux, je crois, d'ici 8 minutes. Manu Lanvin, en direct du Maroc, il est en train d'y jouer. Manu Lanvin au téléphone en direct, vous en profiterez si vous êtes connecté Facebook pour aller sur le Sweet Home Chicago Facebook pour lui poser toutes vos questions à propos de la sortie de son dernier album Grand Casino ou à propos de sa carrière, de son actualité, etc. En fin de première heure, on accueillera Begham Kazem Zadegan pour parler de la nouvelle édition de Blues sur Suresnes qui va se tenir début juin. Et puis, vers 14h30, on aura Cisco Herzhaf au téléphone. Trois invités, donc, vous l'avez compris. Cisco Herzhaf qui sort un nouvel album, lui aussi, dont on parlera abondamment. Et puis, également de ses influences et puis de tous ses projets. Voilà, troisième heure, les dédicaces. Et puis, un menu bien copieux qui démarre avec un mini-hommage à un garçon qui nous a quittés cette semaine. Je veux parler de Dick Rivers, qui est parti à l'âge de 74 ans. Je reviens ici sur un album qu'il avait sorti il y a pas très longtemps, chez Verico, le même label que Manu Lanvin, justement. Ça s'appelait tout simplement Rivers. Et je vous propose Les Rois Serviles, Monsieur Dick Rivers.
J'ai vu des rois serviles et des mendiants superbes. J'ai respiré des roses au creux des mauvaises herbes et j'ai senti le vent sur mon visage imberbe. Fils d'un fleuve tranquille et d'une forêt vierge, arbre déraciné, je vais de berge en berge sans jamais m'arrêter à l'une ou l'autre auberge. J'ai traversé la terre sans jamais rendre compte de ma faim, de ma soif, de ma peur, de ma honte. N'attendez pas ce soir que je vous les raconte. C'est pour toi mon ami, ma douloureuse absente, pour conjurer l'oubli.
Ainsi va la vie Dick Rivers qui nous a quittés le jour de ses 74 ans cette semaine. On poursuit avec Manu Lanvin qui sera tout à l'heure l'invité au téléphone de Radio 666 Sweet Home Chicago numéro 1058. Ça continue avec un extrait de ce grand casino. Ça s'appelle « Je suis le diable » avec Paul Persson.
Ils disent que je suis le diable. quand je branche ma guitare, que ma musique est noire, quand le jour devient soir. Ils disent que je suis l'orage, lorsque je pleure le monde, l'amour et ses déboires, et que ma pluie fait rage. Mais c'est chanter le diable. C'est un peu volage, je ne suis jamais sage, non, mais toujours adorable. Elle m'appelle le diable, car la lune est insatiable. Mais suivant mon destin, je prends le large au matin. Et c'est jouer le diable.
C'est comme ça que se termine l'album, mais on va revenir carrément sur le début de l'album de Manu Lanvin, Grand Casino, avec donc l'attaque qu'il en fait, non pas avec Paul Persson, comme ici il était en duo, mais avec Beverly Joe Scott.
Fight.
Voilà, c'était Manu Lanvin, deuxième extrait de cet album Grand Casino, Manu Lanvin and the Devil Blues. J'ai le plaisir d'avoir Manu Lanvin au téléphone pour vous sur Radio 666. Manu, bonjour.
Ça va ?
Ah, super, super. C'est comme si tu étais pratiquement de l'autre côté du studio. Alors qu'en fait, il y a quelques centaines de kilomètres d'ici, je pense.
En plus qu'une centaine, puisque je suis dans tout mon Maroc. Figure-toi, je suis dans le Riyad, le même endroit où j'ai enregistré Blues, Blues and Rock'n'Roll. On a fait toutes les rythmiques.
Ah oui.
Dans ce même Riyad aussi, dans lequel on a enregistré à l'époque Dog Eat Dog, le dernier album studio de Calvin Russell. Voilà, là, au moment où je te parle, tu vois, j'ai la fontaine devant moi. Peut-être que les auditeurs, ils peuvent imaginer un patio, tu vois, arboré et tout. Et là, je fixe la porte d'entrée du studio qu'on s'était aménagé dans cette grande suite-là. Et Calvin, il venait tous les fins de journée, et il sortait de sa cachette, de sa chambre, et il venait chanter pour nous dans ce studio qui est juste devant mes yeux au moment où je te parle.
Alors j'allais te dire, fais-nous rêver, plante-nous un décor complet avec une météo idyllique, j'imagine, Manu.
Bah oui, au Maroc c'est variable, hein. Ça peut aussi de la pluie, et c'est ce qu'on souhaite souvent aux agriculteurs et tout ça, parce que c'est des pays où il fait chaud. Mais là aujourd'hui, oui, c'est ciel bleu, c'est la température idéale.
Impeccable. Écoute Manu, je suis très content de t'avoir à nouveau. On s'était parlé à l'occasion de la sortie de tes autres albums, et puis là pour 2019, l'album s'appelle Grand Casino. Première question, pourquoi ce titre qui ne correspond pas forcément à un titre à une des chansons?
Oui, c'est vrai, c'est juste. C'est la première fois d'ailleurs qu'on a un titre finalement qui n'est pas le titre d'une des chansons. Mais cet album-là est enregistré dans ce grand casino, ce qui s'appelle le Grand Casino de Forges-les-Eaux, dans le domaine de Forges-les-Eaux. Et ça nous a accompagné, ce Grand Casino, pendant les enregistrements. Il faut savoir qu'on est parti jouer dans cette salle. Il y a une salle dans le casino. Et puis, en rencontrant le patron des lieux, il nous a indiqué un chouette endroit dans ce domaine qui est son studio d'enregistrement.
D'accord.
Le Sound Factory Studio. Et on est parti enregistrer dans ce studio-là sans penser qu'on allait faire un album. Et je trouvais ça naturel que cet album s'appelle Grand Casino, parce qu'il avait été fait durant cette pause, parce que on s'est octroyé cette pause au milieu de notre tournée, et on a enregistré ce chouette album. Enfin, j'espère que vous le percevez comme
chouette
album.
C'est plus que chouette album. Enfin, en tout cas, moi, j'en parle autour de moi et on ne tarit pas d'éloge. Un disque qui est sorti il y a quelques semaines déjà et qui continue à avoir un excellent accueil Dans tous les médias et puis auprès du public. Tu te rends compte à chaque concert, j'imagine.
Écoute, c'est une chouette aventure. C'est surtout l'aventure de David Blues qui est une aventure de dingo. On est parti de rien avec Jimmy, mon batteur, et puis voilà qu'aujourd'hui on se retrouve sur des gros festivals, sur des grosses scènes avec un public qui devient de plus en plus important, et c'est génial, ça nous porte bien évidemment, on a envie de faire encore plus. Et tu sais, j'ai beaucoup beaucoup galéré avant que les choses prennent forme, musicalement, artistiquement, professionnellement aussi. Moi je voulais faire de ma passion une vie de tous les jours, et c'est ce que le David Blues me permet, c'est ce que le public qui nous accompagne et les fans et supporters du David Blues me permettent. Donc je me dois d'être à la hauteur de leurs exigences, de leur envie de me voir sur scène et de les exalter. C'est ce qu'on fait. Ma mission, c'est de rendre heureux les autres.
Eh ben, mission accomplie pour l'instant, Manu. Enfin, en tout cas, moi, à chaque fois que je te vois et à chaque fois que j'entends parler de ce que tu fais sur scène, les gens ont toujours la banane. Tu parles du Devil Blues et c'est vrai que ça a été un grand tournant dans ta carrière, mais il faut savoir aussi qu'il y a eu une période musicale Manu Lanvin sans les Devil Blues. On peut citer l'album Venir au Monde, l'album Faible Humain, Les Temps Mauvais, voilà, des disques qui ont précédé tout ça, qui datent du début des années 2000. Est-ce que tu jettes un regard sur cette partie de ta carrière, et si oui, lequel, Manu?
C'est ma mère qui réécoute ces morceaux-là. T'entends, je débarque à la maison chez eux et je l'entends remettre les premiers albums. Elle a beaucoup d'attaches sentimentales aux premiers morceaux. Ces albums, parce qu'ils étaient en français. C'est vrai, je me suis éloigné du français, tu vois, avec le David Blues, parce qu'on avait une envie d'aller jouer pour l'international, ce qu'on a fait, ce que l'on fait de plus en plus. Et je m'étais dit, bon, ben voilà, l'anglais, malheureusement, ou heureusement pour nous, dans cette musicalité qu'est le blues, elle fonctionne bien, c'est la langue universelle. C'est-à-dire que si on veut faire un concert d'une heure et demie à New York, comme on l'a déjà fait, ou partir comme on va le faire cet été en Slovénie, en Croatie, en Pologne, en Allemagne, il faut qu'on tienne dans une langue qu'ils peuvent plus ou moins maîtriser. Et l'anglais nous permet ça.
C'est ça. Donc Manu, une carrière internationale, ça ne se fait pas sans chanter en anglais, selon toi.
Compliqué, pourtant, c'est marrant ce que tu me dis. Pourtant, il y a beaucoup d'artistes dans notre registre musical.
On peut penser à Mireille Mathieu, on peut penser à Gilbert Bécaud, enfin des gens qui ont eu un succès phénoménal à l'étranger.
Bien sûr.
Notamment au Japon, aux États-Unis, enfin, Charles Aznavour, enfin, il y en a plein, Johnny Hallyday. Et toi, tu es passé du français à l'anglais, et tu n'es pas prêt à revenir? Est-ce que tu serais prêt?
Bien sûr, regarde, ouais. j'y suis revenu.
Eh oui.
J'y suis revenu grâce à Paul Persson. Puisque dans cette chanson que nous avons fait ensemble, le duo qui est sur le dernier album, sur le Grand Casino, ouais. Je suis le diable est en français. Et ouais. C'est lui qui m'a aidé d'ailleurs à revenir en français. Vraiment, hein. On a eu une longue discussion, on a eu deux longues discussions avant qu'on s'y colle ensemble sur ce titre que je voulais lui proposer. Mmh. Et que j'avais beaucoup de réticence. Je lui ai dit non, j'aimerais que toi tu chantes en français parce que ça sonne tellement bien de ta bouche le français. Mais moi, je suis pas sûr. Alors peut-être que moi, je vais adapter ma partie en anglais. Il me dit, mais non, mais t'es con, c'est super bien en français, je te jure, fais-moi confiance. Alors j'ai fait confiance à Polo et je ne le regrette pas parce que c'est un vrai bonheur de rechanter en français.
C'est qui Paul Persson pour toi? C'est un grand frère musicalement parlant? Ah, je pense qu'on a dû perdre Manu Lanvin en route, on va le rappeler tout de suite. Voilà, je sais pas, on va peut-être un petit souci de téléphone par rapport à la liaison au Maroc. On va écouter un peu de musique et puis je pense qu'il va nous rappeler très très vite. Voilà, on a rétabli le direct avec le Maroc. Manu Lanvin, toujours au téléphone. Alors, on est en train de te perdre, là, dans le Sahara. Je ne sais pas où tu es dans cette... Oui, Manu.
Moi, je t'entends parfaitement bien.
Alors, nous, on t'entend beaucoup moins bien que tout à l'heure. C'est un petit peu haché. Est-ce que, je ne sais pas, il y aurait moyen peut-être de...
Tu sais ce que je vais faire. Hein. Vas-y. Je vais monter sur les toits. Ça va avancer. De la hauteur.
Voilà, comme quoi c'est vraiment du direct. Hein. C'est Radio 666, c'est Sweet Home Chicago en direct avec Manu Lanvin.
Regarde, tu vas voir comment ça va être mieux là. Tu m'entends mieux à mon avis là. C'est
oui.
Pas
très long. Voilà, mais écoute, il y a un petit peu d'écho, mais ça va. On va pouvoir entendre tout ce que tu nous dis. On était en train de parler de chant en français et on était en train de parler de Paul Persson. Et je te demandais si pour toi, Paul Persson, c'était un peu un grand frère musicalement parlant.
Oui, c'est un parrain. Mon frère, c'est un pote aussi avant toute chose. C'est quelqu'un qui a été toujours présent à des étapes importantes de ma vie ou de mon développement artistique.
Ouais.
Donc il a suivi le. Il est venu faire une guitare sur Venir au Monde déjà. Il était venu déjà participer sur le premier album. Mmh. Il m'a réorienté de temps en temps. Oui. Il m'a donné quelques conseils quand je me perdais un peu en écoutant trop les maisons de disques, ce que j'ai fait sur les premiers albums. Et puis, il m'a donné confiance et lorsqu'il m'a vu dans cette aventure hallucinante qu'est le Devil Blues, en me disant, c'est bon, mon pote, tu es sur la route, là, il faut plus la lâcher parce qu'elle te va bien, cette route-là. Donc, c'est ce que l'on fait.
Vous êtes allé jusqu'à partager des musiciens. Il y a des musiciens, je pense à Nicolas Bélanger, par exemple, qui a été son bassiste, qui est ton bassiste. Enfin, voilà, il y a des...
Oui, bien sûr. Il nous a, entre autres, voilà. On a collaboré aussi sur certaines choses le concernant, sur les mixages de son avant-dernier album. Voilà, dans mes studios, c'est comme ça que j'ai rencontré Nicolas Bélanger, son bassiste. Et puis comme Paul ne tournait pas trop, je lui ai volé son son bassiste. Et puis du coup, il se sent bien avec nous, et nous on se sent bien avec lui, donc on le garde, quoi.
Alors tout ça, bien sûr, ça se passe dans une bonne entente, que j'imagine franchement amicale. Enfin, il y a pas mal de convergences, enfin, par rapport à ta carrière, par rapport à ta vision de ce que tu viens d'évoquer un petit peu, les maisons de disques, peut-être aussi le show business. Il y a des choses qui vous sont communes à Paul Persson et à toi, Manu.
Oui, pourquoi? Ben, je pense que l'exactitude en amitié, hein, comme pour tout, même comme en amour, j'ai envie de dire, elles tiennent à ce genre de détails importants, c'est qu'on a les mêmes visions des choses. Comment dire? Nous, on n'est pas à l'aise, Paul et moi, je pense, hein, je veux pas parler en son nom, mais j'ai jamais été à l'aise dans les réunions, effectivement, du showbiz, à aller courtiser les médias dans les discothèques ou les bars ou les restaurants où il faut se montrer à Paris. Parce que, non pas que je peux pas le faire, que ça m'est pas permis, ça me l'est, mais c'est que ça ne m'intéresse pas, je suis pas à l'aise. J'ai malgré tout cette forme de timidité qui fait que je suis pas à l'aise dans cet exercice social, oui, qui est de parler aux gens par intérêt ou par envie de réussite ou de qu'est-ce que je vais pouvoir lui prendre lui. Tiens, voilà, c'est pas notre histoire et très vite je l'ai compris. Et c'est pour ça que j'ai taillé la route à l'époque avec mon Jimmy, mon batteur, et qu'on s'est dit bon ben voilà, les médias ne nous aideront pas. Pourquoi? Parce qu'on ne les courtise pas, on ne les fréquente pas. J'ai envie de dire l'intelligentsia, hein, artistique et médiatique parisienne, on ne la fréquente pas. Elle ne veut pas de nous. En plus, parce que c'était un fait, eh ben on va aller sur le terrain, on va jouer pour le plus grand nombre de gens que l'on peut, on va se construire notre bande, quoi, notre joyeuse bande. C'est-à-dire, quand je dis notre bande, c'est mes musiciens, mais c'est aussi le public qui aujourd'hui nous suit sur toutes les dates de concert que l'on fait.
On pourrait citer d'autres artistes, peut-être dans d'autres domaines musicaux, mais en tout cas des Français qui ont parfois depuis longtemps suivi ces conseils-là, c'est-à-dire essayer d'avoir une carrière essentiellement scénique et bien sûr vendre des albums, mais en tout cas ne pas forcément compter sur les médias traditionnels. On peut penser à Jean-Louis Murat, on peut penser à Charlie Couture, ouais, Hubert-Félix Stéphane.
Mais le problème de ces gens-là, alors tu vois, eux qui ont une grande gueule, moi je vais en avoir une pour eux, de grande gueule, c'est qu'eux, ils s'en plaignent de ça. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas heureux de ça. Ils ne sont pas heureux d'avoir vendu des albums en n'étant pas conviés dans les grands rendez-vous médiatiques. Moi, j'ai vu Hubert-Félix Stéphane s'en plaindre de ça. Ah ouais. Mais pourquoi, moi, mais quel est ton problème? Enfin, si je devais le rencontrer, et d'ailleurs, je l'ai rencontré, d'ailleurs, il s'était très très mal tenu lors d'un festival en Suisse, en insultant tout le monde, en parlant de manière honteuse aux gens. Et c'était horrible, parce que moi, j'ai beaucoup de respect pour ce mec-là. J'ai toujours aimé sa manière d'écrire. Il a une vraie intelligence, mais il sait être une vraie tête de con, ce qu'il a été avec nous. Je me rappelle, il y avait Axel Bauer et tout ça, à squatter la scène pendant 2 heures. Ah oui. J'en ai rien à foutre des autres. J'en ai rien à foutre des autres, moi, ça me dérange, quoi. Moi, j'en ai pas rien à foutre des autres, tu vois. Je lui dirai un jour à Tiffen, moi, j'en ai pas rien à foutre des autres.
Tiffen qui avait fait un album avec Paul Persson il n'y a pas très très longtemps, justement.
Oui, mais d'ailleurs, ça s'est mal passé, tu vois. Je pense que c'est une demi-confidence que je fais, parce que c'est un mec qu'il faut qu'il règle ses problèmes. Et Murat, j'ai vu dernièrement aussi casser du sucre sur les gens et tout. Mais parce qu'ils ont une forme de jalousie, malgré tout. Et tu vas me dire, mais finalement, elle est belle, l'histoire, pour toi. T'as pas été obligé de vendre, entre guillemets, tes fesses, t'es obligé, oui, d'aller te mettre dans des schémas qui ne te correspondent pas. Génial. Et t'as réussi, malgré tout, à avoir une carrière qui t'a permis d'être un homme libre. Mais c'est génial. Qu'est-ce qu'on peut envier de mieux que ça? Tu peux aller chercher ton pain sans qu'on t'emmerde, quoi. Non, mais c'est génialissime.
Oui, vas-y, Manu, pardon.
Non, non, mais je parle de Murat, de TSN, et de même de Charlie Couture, que j'ai vu l'autre jour. J'ai dit, oui, Murat, bon, et les victoires de la musique. Mais t'en veux lui dire, mais les victoires de la musique, mon pote, il faut aller courtiser Universal. C'est Universal qui tient les victoires de la musique. Ouais. C'est-à-dire qu'on s'est jamais rendu compte que la présidente des victoires de la musique, c'est juste une des gonzesses qui est chez Universal, quoi. Et les gens il faut savoir comment est construit cette partie-là du business. Et si on n'a pas envie d'aller jouer dans cette cour de récréation, eh ben, n'y va pas. Voilà. Mais ne t'en plains pas. Et moi, c'est ce que je reproche. Comme ça, hein, on vous donne mon avis, c'est un avis. C'est ce que je trouve bizarre, moi, chez TSN, chez Murat et chez Charlie Couture, qui aujourd'hui se plaignent. Mais tu te plains de quoi? T'es parti à New York, Charlie Couture, en vendant des tableaux partout à Kstatt. Moi, je me rappelle, j'allais jouer en Suisse, et les tableaux à je sais pas combien. Tu te plains de quoi? T'as fait tout ce que tu veux dans la vie. Et en plus, il faudrait qu'on se mette à quatre pattes devant toi, et tu fasses la première partie de Paris Match. Mais t'as vraiment envie de faire la première page de Paris Match ou la première page de Gala? Honnêtement. Alors, ouais, ces gens-là ont un truc bizarre, je trouve. Voilà, excuse-moi, c'est mon coup de gueule de la journée.
Non, 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 bien sûr. Mais écoute, c'est tout à ton honneur. C'est peut-être pour ça que tu es chez Vericord, Manu. Le label Vericord.
Pour comment ça ? Pourquoi ?
Non, par rapport au fait que voilà, c'est pas forcément un label qui va avoir autant pignon sur rue que Universal, Warner Bros. Et
non,
compagnie.
Non, il faut. Oui, disons qu'ils ont une.
Ils ont une belle distribution. J'ai pas dit ça. Hein, j'aurais pas non plus qu'on se méprenne. C'est un très très beau label. Il y a de très belles signatures. Il y a également Paul Person. Uh-huh. Enfin, il y a eu Dick Rivers. Il y a eu des gens.
Il y a une ligne éditoriale qui est chouette, effectivement, qui a pris forme petit à petit. Au début, c'était pas ça. Hein. On était le seul artiste de blues au début chez Vericord, tu sais. Puis d'un seul coup, on sait pas, Paul Person, Bertignac, Popat Choubi, et on est super content de retrouver les gens dont on est fan. Mais Vericord a su aussi exploiter, il faut dire, reconnaître que reste comme une maison, exploiter justement ces musiques de niche, ce qu'ils appelaient ça, les musiques de niche, tu vois, pour des musiques très d'un genre très spécialisé comme le blues, comme le rock, comme le heavy metal. Ils ont aussi un chouette catalogue de tout ce qui est hard rock, heavy, enfin tout ce qui est avec des groupes top, hein, génialissimes. Ils ont une très chouette vitrine. En tout cas, moi, je me reconnais plus dans celle-ci que dans celle de grandes majors. Ça, là-dessus, c'est incontestable.
D'accord. Eh bien, écoute, ça a été bien entendu, partagé également, j'imagine, par une grande partie des auditeurs de Radio 666, qui eux également, ici, le prouvent, chaque jour, se tournent vers d'autres radios.
Attention, Marc, ouais. Je veux pas qu'on me méprenne là-dessus. Il n'empêche quand même le respect que j'ai, le respect de et la qualité de choses qu'on fait. TFN.
Ah non, mais artistiquement parlant, c'est autre chose.
Dis-toi que c'est des mecs, moi, qui m'ont fait vibrer. Mais vraiment, je dis franchement, et qui, je respecte profondément le travail qu'ils ont fourni. Par contre, j'ai un tout petit problème avec leur coup de gueule à la con.
Voilà, alors, c'est comme... Tu fais bien de le dire, parce que parfois, c'est essentiellement français comme réflexe. On a tendance à assimiler la personne et ce qu'il fait à la même chose, quoi. Alors qu'en fait, on peut très bien apprécier la musique de quelqu'un et pas du tout aimer son caractère. Enfin, et puis le contraire est vrai. À partir du moment où on apprécie une personne, c'est pas forcément que pour sa personnalité, mais ça peut être aussi uniquement par rapport à ce qu'elle produit, et pas seulement en musique, bien évidemment.
Oui, exactement.
Voilà, il faut le préciser, parce que je pense que toi qui es en contact avec pas mal de gens à l'étranger, j'ai envie de dire, c'est quelque chose que c'est un distinguo qu'on fait plus facilement peut-être aux États-Unis, par exemple, que chez nous. Je sais pas si tu as constaté ça.
Bah je trouve que les gens sont moins envieux, ouais, il y a moins de jalousie.
Moi j'ai vu plus facilement des Américains s'engueuler entre eux, dit t'as fait un solo de saxo pourri, et puis dans la minute qui suit, trinquer avec une bière dans la main pour chacun, quoi. Ça c'est pas un souci, quoi.
Ouais. Oui, bah alors maintenant c'est peut-être la façade qu'ils nous montrent, mais effectivement il y a moins de surtout d'envieux et de jalousie. Mais pourquoi aussi? Parce que les marchés sont beaucoup plus grands. Un artiste comme Popat Choubi, par exemple, pourquoi il est cool, Popat? Je veux dire, il est cool entre je sais qu'il n'a pas toujours été avec certains techniciens en France.
Il n'est pas cool avec tout le monde, hein, je peux témoigner.
En tout cas, il était très cool avec moi. Et parce que de toute façon, dans la niche qu'ils occupent, ouais, le blues et le rock, ils ont su couvrir tellement de territoires et ils jouent tellement que finalement, il a peu de frustration. Popat Choubi, quelqu'un qui travaille beaucoup, qui a la chance de pouvoir faire du spectacle régulièrement. Donc c'est sûr que ça génère peu de frustration. Et c'est pour ça qu'il est plus cool là-dessus, en tout cas. Quant aux réussites de Lady Gaga, je pense que la réussite de Lady Gaga, Popat Choubi, on n'a rien à branler. Quoi. Tu vois ce que je veux dire?
Allez, bien d'accord.
Mais par contre, Murat, Charlie Couture, et ça, eux, ils ont un problème avec Patrick Bruel. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que Popat Choubi, on n'a rien à faire de la réussite de Patrick Bruel. Voilà.
D'où ton choix. parmi les invités de cet album, Manu Lanvin, dans Grand Casino, d'où ton choix, notamment de Paul Person. On en a parlé de Popat Choubi, mais également de Beverly Joe Scott. Alors, The Devil Does It Right, Beverly Joe Scott, chanteuse de l'Alabama, émigrée en Belgique depuis fort longtemps et qui est aussi partie prenante de l'actualité de la musique en Belgique, parce qu'elle est coach pour The Voice, par exemple. Enfin, elle est beaucoup plus connue. Oui.
Puis elle a une chouette émission le dimanche, son brunch musical, là,
tout à fait.
C'est génial, qui a rendez-vous sur Classique 21, qui est génial, que tout le monde écoute, qui est une sublime radio, il y a une programmation terrible, et elle occupe une petite plage le dimanche qui est très agréable. D'ailleurs, on a été joué pour elle en acoustique, et c'était que du bonheur de se retrouver sur cette émission.
La question tout à l'heure par rapport à Paul Persson, elle peut être valable pour les autres artistes que tu as invités. Est-ce que tu t'attends forcément à un renvoi de balle, d'invitation sur leurs albums, ou est-ce que c'est un truc
qui te dit Je ne peux pas te dire que je ne traîne pas dans les milieux parisiens pour
non, non, mais voilà.
Donc je ne me permettrai absolument pas. Non, il n'y a aucune. Non, ça ne s'est pas du tout fait à charge de revanche. C'est pas du tout fait comme ça. C'est fait dans le moment, dans l'instant. À un moment donné, les étoiles s'alignent bien comme il faut pour qu'on puisse, que ces duos puissent se faire. Et je suis très heureux et honoré, très honoré quand même. C'est vraiment que les mecs aient tous dit oui, quoi. Tu vois, ceux que je voulais sur l'album m'ont tous dit oui.
Ouais.
J'aurais pu écoper d'un nom, ça peut arriver aussi, hein. Polo m'a dit oui, il était pas obligé de le faire, vraiment. C'est pas parce que c'est mon pote, il a appelé Manu. Bah, non, je sens pas ton titre, ta chanson, je la sens pas.
Ouais.
Beverly Joe Scott aurait pu faire la même chose. Popa Chubby, qui est surdébordé, il aurait pu venir, Manu, j'ai vraiment pas le temps. Bah, il s'est donné le temps pour le faire. Et quant à Taj Mahal.
Alors voilà, Taj Mahal, ben oui.
Qui a juste chanté avec les plus grands, quoi.
Ben c'est-à-dire oui.
Avec les Rolling Stones, avec les Allman Brothers. Qui me disent oui à moi, petit Frenchie de Montmartre, de Pigalle. Si tu veux, c'était juste waouh, je me rappelle faire des bons lorsqu'il m'a rappelé 30 minutes après en me disant wow. Je chanterai sur ta chanson, j'adore ta chanson, je viens bientôt à Paris et je viendrai faire un tour dans ton studio. Mais je faisais des bons 4 mètres, j'étais dans les halles, je me rappelle, et j'étais heureux comme un gosse heureux.
Parce que il faut le préciser, Manu, il y a une chose à dire, parfois il y a des invités comme ça, des albums les uns sur les autres, mais physiquement, parfois, on ne se voit pas. On fait du re-recording, on enregistre ça à 6000 km. Là, Taj Mahal a fait le voyage, il est venu enregistrer avec toi dans le studio ?
Exactement, mais tu sais, Taj Mahal a un amour, a un lien très fort avec la France, pour la bonne et simple raison que sa sœur, Carole Frédérique,
oui.
a beaucoup travaillé en France. Elle était choriste de Goldman, et,
voilà.
Et il a toujours eu du coup un lien avec beaucoup d'artistes. Il avait un lien avec Johnny Hallyday, il m'en parlait quelques parfois. Il en avait avec Goldman et tout ça. Et il avait même un lien avec dans le quartier dans lequel je vis, qui est Montmartre, parce que sa sœur avait un appartement là-bas. Elle vivait là-bas, Carole Frédérique. Donc je sais qu'il y avait aussi une forme de nostalgie, et je pense que le fait que je lui dise que le studio où je voulais, enfin mon studio était la chocolaterie, était à Montmartre, je pense que ça a été aussi un petit plus. Il s'est dit waouh. Bah voilà, je retourne. Je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, je peux pas parler, mais je sais qu'il est très attaché à ce quartier parce que c'est le quartier où vivait sa sœur.
Est-ce qu'il y a des prévisions de collaboration scénique, par exemple avec Taj Mahal? Est-ce qu'il y a des concerts prévus avec Taj Mahal en invité?
Taj, bon, il est plutôt jeune, alors c'est souvent compliqué. Je lui ai tendu quelques perches, on ne désespère pas. À un moment donné, ça se fera. Quand au niveau des calendriers, ça sera jouable. Il faut savoir que Taj, il est très très sollicité aux États-Unis, aussi bien pour ses concerts solo, mais aussi pour il a fait une énorme tournée mondiale avec Kemmo, et puis il est souvent invité pour plein de tributes et de choses qu'organise souvent Don Was, qui est un producteur extraordinaire. Hein, tu dois connaître Don Was. Et chaque fois, il le prend parmi ses invités. C'est souvent des tournées. Tu sais, ils font genre 15, 20 dates, 30 dates. Ils font un tribute pour tel artiste ou quelque chose comme ça. Il est très, très sollicité. Alors, je sais que si les choses se goupillaient bien pour qu'il puisse se rejoindre sur une date, il le ferait parce qu'il a ce tempérament-là.
Bien. Alors, Taj Mahal, rappelons qu'il est né en 1942. C'est plus tout à fait un jeune homme aussi. Très, très occupé, tu l'as dit. Et puis, peut-être besoin de se reposer de temps en temps sur les îles, hein, avec son hula blues qu'il a toujours, je crois. Taj Mahal, qu'on avait vu il y a 2 ans sur la scène de Cahors. Cahors, c'est un festival que tu connais, hein, tu aimes bien venir à Cahors, je crois.
Ben, ça fait, je crois, la troisième fois. La première fois, c'était avec Midlac. La seconde, j'ai dû venir pour un des soirs. Ils faisaient un hommage c'était une sorte de rétrospective de la route du blues, ainsi de suite.
Oui, avec Gaël Busvet, notamment.
Ouais. Voilà, Fred Chapelier, bon, tout un tas d'artistes. Ouais. Et puis, on est revenu en force l'année dernière avec Paul qui est venu me rejoindre sur scène, voilà. Gaël Buswell qui est venu me rejoindre sur scène, Anne Sélisseur, voilà, tout un tas de gens que j'aime bien. Et on a fait une chouette soirée, on a tenu les rênes de toute la soirée et c'était un marathon, mais qu'est-ce que c'était bon.
Le festival de Cahors, est-ce qu'il va entrer dans le top 3 de tes endroits préférés, en parlant de festival, hein, parce qu'il y a la catégorie salle également, dans lesquelles tu t'es produit?
Je peux pas renier c'est des points de départ importants, ces gens, oui, qui m'ont fait confiance. Alors, tu sais, il y a quelques endroits comme ça où on reviendra, peut-être pas cet été, mais peut-être les années prochaines. Et on le fera, on reviendra toujours avec une forme de nostalgie parce qu'on a commencé sur les planches du Cahors, tout comme on a commencé dans une salle dans laquelle on joue bientôt en septembre, l'atelier des Môles à Montbéliard. Là, on va retourner au Montreux Jazz Festival et j'ai demandé à jouer sur la même scène sur laquelle on a joué la première fois, qui est la scène de Music in the Park. Et bien évidemment qu'on est tellement heureux parce que c'est là où a commencé le Daily Blues. L'histoire du Daily Blues a commencé dans ces lieux-là.
Alors là, on sent bien toute la passion qui pointe dans ce que tu dis, Manu. Ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, va rester jusqu'au bout. Tu fais de la musique d'abord pour faire de la scène, d'abord pour faire des disques, d'abord pour faire plaisir aux gens, ou tout ça à la fois. Qu'est-ce qui te fait marcher? Quel est
tout
ton moteur?
Tout ça à la fois. Ma mission, c'est de rendre les gens heureux. Voilà, c'est ma mission sur Terre, je le sais maintenant, je le sais depuis quelques temps, et les gens me renvoient cette chose positive, qui est merci Manu pour ces 3 heures où tu nous as donné une énergie positive. Je trouve que dans ce monde qui va pas très bien, dans nos vies respectives, les factures, les problèmes de boulot, les problèmes de cœur, les problèmes de santé, ce sont des gens qui se confient à moi à la fin des concerts, lorsqu'ils viennent, tu vois, tchatcher un petit bout avec nous, après le concert, moi je suis content lorsqu'ils me disent putain, pendant 3 heures on s'est tellement déconnecté de notre quotidien, et ça c'est mon rôle. Alors ça va avec les albums, ça est la musique que je propose, et ça va avec le spectacle, parce que pour moi j'ai toujours fait de la musique pour le live, et c'est là où il y a la communion avec les gens, c'est là où on peut tous ensemble aller vers quelque chose de positif et se renvoyer une vibration très très très, on peut se recharger énergétiquement. Parle comme un con quand je parle comme ça, mais pourtant je peux t'assurer que c'est ça la musique. Ouais. La musique pour moi c'est la plus belle chose qui puisse se passer entre nous, parce que il y a plus de problèmes de différence, tu sais, de race, de couleur, de religion, d'âge, de ceci, cela. On se retrouve dans une même pièce et puis on chante, on danse tous ensemble. Mmh. C'est ça la musique. Et j'aimerais tellement que dans la vie de tous les jours ça soit comme ça, mais pas de chance.
pas toujours, effectivement. Il y en a qui mettent des gilets jaunes pour ça, justement. On va te retrouver en Normandie au mois de juillet pour le festival Mosaïque au Havre, et puis au mois de novembre à la belle salle de la Traverse à Cléon. Alors je parle pour les auditeurs normands. J'avais une autre question à te poser pour presque terminer cette interview, Manu. Est-ce que tu pourrais encore, en 2019, enregistrer des chansons comme celle-ci?
Ah ouais. Paris Hilton, j'adore.
Moi aussi j'adore.
C'est si bien,
Alors là, on était en 2006. C'est pas si vieux que ça, 2006. Il y a eu un sacré virage. Mais en même temps, je trouve que ça continue à s'écouter très très bien. Hein.
Ce morceau est un morceau plutôt rock, même rock avec une sonorité un peu anglaise. Ben oui, c'est l'album Faible Humain, et c'est le dernier album solo. Mais il y a des très bonnes choses dans cet album.
Ben oui.
J'ai du mal à réécouter personnellement. Mais par contre, Jimmy, mon batteur, me pousse à chaque fois me pousse au cul avec cette chanson. Il faudrait qu'on la réarrange cette chanson.
Bah, tu sais quoi, je trouve qu'il a raison. Il a raison, Jimmy. Il faut faire un... Peut-être, je ne sais pas, si tu as envie de la faire en anglais, par exemple, ça pourrait être...
Oui, mais elle est tellement plus d'actualité, cette fille. À une époque, c'était intéressant de décoder tous ces gonzesses qui effectivement utilisent les médias très habilement pour sortir du lot, mais avec rien, quoi. Il faut savoir qu'elle est sortie du lot avec, effectivement, une vidéo... tu vois, faite très volontairement. Tandis que tu vois, on m'a volé la photo de mes ébats avec mon petit copain. Tu dis, ouais, c'est ça. Fous-toi de ma gueule. Et combien aujourd'hui de stars internationales, enfin stars, tu m'as compris, hein, tu vois, émergent avec des conneries de sex tape qui traînent, malheureusement. Voilà, c'était un petit pamphlet à l'époque. Pas méchant en plus, parce que dans le deuxième couplet, on essaye de décortiquer un peu tout ça. Les rêves de petites filles, ces envies de réussite, ces envies de briller, ces envies-là, elles ont une explication. Et Faible Humain est un chouette album au niveau de l'écriture, parce que je pense que on avait tenté avec mon co-auteur à l'époque, Stéphane Granger, de décortiquer tous les mécanismes humains comme ça, qui nous pousse vers la réussite, cette envie de réussite, ou aussi la passion amoureuse. Et on s'était amusé à beaucoup décortiquer, d'où le nom d'ailleurs, Faible Humain. Et Paris Hilton, à l'époque, c'était pas mal à essayer d'étudier. C'était un cas intéressant.
Peut-être que 12-13 ans après, on pourrait viser plutôt les filles qui font de la promotion sur les réseaux sociaux, quoi, de la fausse publicité. Enfin, voilà, tout évolue finalement. Alors,
exactement.
J'ai une dernière question de Facebook, Olivier Durusseau, qui me demande si tu ferais une tournée US.
Ben, on en a déjà fait.
Ouais.
On est parti quelques fois, quelques festoches qu'on a fait là-bas. Après, c'est tout un consensus assez. C'est toute une organisation, parce qu'en fait, pour tourner aux États-Unis, il faut déjà avoir, d'après moi, une backline déjà sur place. D'ailleurs, c'est pas genre on loue des instruments, on se les fait prêter. Non. Nous, on l'a fait plein de fois comme ça, et c'est une organisation de dingue. T'es là, il faut les récupérer, l'empêcher un tel. Ah oui, mais il faut le rendre avant mardi matin et tout, tu deviens fou. Donc oui, il faut le faire, mais du coup, il faut s'investir pendant 3, 4, 6 mois. J'ai envie de dire 6 mois. Tu pars aux États-Unis, voilà, et à la rigueur, tu prends peut-être pas toute ton équipe technique, tu vois, tu vas aller choper des mecs sur place, et dans ces cas-là, tu peux le faire. Alors, jusqu'à maintenant, on a fait des dates, c'était à chaque fois, une date, deux dates, trois dates, par-ci, par-là, tu vois, donc on s'en est bien sorti. Mais pour faire une vraie tournée aux États-Unis, je pense qu'il faut aller vivre au moins 6 mois là-bas, voilà.
D'accord.
C'est mon avis, bien. C'est mon avis.
C'est ton avis, c'est ta réponse. Manu Lanvin, je voudrais te remercier d'avoir pris du temps pour répondre aux questions des auditeurs et puis aux miennes sur Radio 666. On est en direct là dans Sweet Home Chicago. On se reverra très prochainement, très vite. Je ne sais pas si ce sera une date normande ou pas. Enfin, en tout cas, ce sera sur la route du blues, comme d'habitude. Moi, c'est toujours avec grand plaisir que je ressens à parler avec toi, et puis à voir que la flamme, elle est là et elle brillera encore pendant de nombreuses décennies, Manu. Merci pour tout ça.
Merci Marc, merci pour ton soutien, merci pour ton support, merci de nous jouer sur ta radio, merci sur ton émission et de m'inviter, parce que c'est sans vouloir cirer les pompes et tout, c'est cool de savoir qu'on a des gens qui nous aident et qui nous supportent comme tu le fais. Ça nous donne beaucoup de force à nous, tu sais.
Merci à toi Manu, c'est très gentil. À très bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir. Ciao.
Ciao.
My soul. Men lies about it.
Men lies about it.
Some of them cries about it.
Some cries about it.
Some of them dies about it.
Some dies about it.
Everything's a fighting by the spoonful. That spoon, that spoon, that spoonful. That spoon, that spoon.
Spoonful en duo avec Papa Choubi, c'était bien sûr Manu Lanvin de The Devil Blues dans l'album Grand Casino. Merci encore à Manu pour cette chouette interview en direct live du Maroc, voilà. Et puis à très très bientôt sur la route, on continuera bien sûr d'écouter cet album et puis quelques extraits des précédents. On poursuit avec un petit hommage, c'est une petite dédicace pour toi Manu, c'est Unrepentant, l'album 2007 de Calvin Russell, avec pour illustrer ce que tu disais, Free in Freedom, Calvin. Spéciale dédicace pour Manu Lanvin, c'était un extrait de Unrepentant, l'album de 2007 de Monsieur Calvin Russell avec ce titre Free in Freedom.